BFM Bourse, le club de la bourse.
Nos experts du club viennent de nous rejoindre. À l'instant, ils viennent de s'installer confortablement, on l'espère. Confortable, Mabrouk ? Vous êtes bien là ?
Oui, toujours. Oui.
Vous êtes sous le filet d'air frais, je crois, à cette place-là.
Oui, c'est
vous
très
sentez,
agréable.
Hein, mais c'est bien, ça rafraîchit tout le studio et vous êtes pile dessous. Mabrouk Chetouane avec nous donc pour Natixis IM. Laurent Chauder échappe à ce courant d'air frais. Bonsoir, Laurent.
Bonsoir, mais très confortable aussi.
Oui, oui, je me doute, membre du comité d'investissement de BDL Capital Management. On est ravis de vous retrouver l'un et l'autre ce soir. Le CAC 40 donc en petite baisse, presque une séance pour rien sur le CAC. À Wall Street, nette baisse en revanche. Le rapport sur l'emploi, on va démarrer par ça quand même, avant de parler de SpaceX et de la tech dans un instant. Le rapport sur l'emploi est meilleur qu'attendu, deux fois plus de création de postes qu'attendu aux États-Unis. C'est pas rien au mois de mai. Résultat, alors les actions reculent parce qu'on se dit c'est pas facile du coup de justifier une baisse de taux quand le marché de l'emploi va aussi bien. Comment vous regardez-vous ce rapport sur l'emploi, Mabrouk ?
Bon, il témoigne finalement de la résilience, vous l'aviez indiqué dans votre introduction, de l'économie américaine, qui est pas vraiment une surprise. On a en tout cas nous toujours été finalement assez constructif, positif sur la solidité de l'économie américaine. C'est vrai que ça surprend. Et ce qui surprend par ailleurs, c'est que le passé a été révisé à la hausse. Alors là encore, il faut mettre des guillemets, puisque quand on a finalement les chiffres définitifs, on va dire un an après, on s'aperçoit que l'économie américaine a détruit beaucoup plus d'emplois finalement qu'elle en a créé. Oui. Mais en tout cas, toujours est-il, ce que prend le marché, c'est de dire au fond, l'économie américaine dont effectivement on soupçonnait quelque part, enfin on s'inquiétait sur l'évolution conjoncturelle, bah finalement tout se passe bien. On a une économie qui est pas sous stéroïdes finalement, qui continue de progresser avec des tensions inflationnistes et finalement, en toile de fond, ce que ça nous dit que bah le prochain gouverneur, est-ce qu'il aura les coups des franges pour pouvoir délivrer des baisses de taux? Absolument pas. Ben même finalement, avant le rapport sur l'emploi, il n'y avait aucune baisse de taux qui était anticipée par le marché sur cette année 2026. Bien au contraire, on avait déjà les prémices des hausses de taux. Et donc, quelque part, ça vient conforter le marché que, globalement, il n'y aura pas de, d'assouplissement monétaire, mais globalement, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y en a vraiment besoin aux États-Unis? La réponse est non, puisque fondamentalement, si l'économie crée des emplois, et si en plus de ça, il y a un autre chiffre également qui est important de souligner, le taux de chômage est complètement stable, mais surtout, c'est que la croissance des salaires, finalement, elle, reste sous contrôle.
Tout à fait, conforme aux attentes.
Légèrement en dessous même, finalement, sur la croissance des salaires. Et donc, on a finalement le meilleur des mondes, en quelque sorte. Ah. Une économie américaine qui produit de l'emploi, qui continue de créer des jobs, avec finalement une croissance des salaires qui est généralement, qui nourrit cette inflation sous-jacente que tout le monde, finalement, en tout cas les banquiers centraux, regardent de manière bien évidemment attentive. Eh bien, tout est sous contrôle. J'ai presque envie de dire, bah, comme d'habitude, c'est imperfect, encore une fois, pour l'économie américaine, qui va finalement, le marché actions corrige, tout simplement parce qu'on a un peu plus de restrictions monétaire finalement dans les tuyaux qui va arriver d'ici peut-être la fin de l'année. Mais attendez, il y a quand même un point très important, c'est que on a quand même les midterm elections, globalement les élections de mi-mandat qui constituent finalement là encore un rendez-vous extrêmement important. Et la condition, la grande question, c'est est-ce que Kevin Warsh va resserrer les taux avant en fait finalement avant les midterm. Globalement, et c'est pour ça que fondamentalement le marché surréagit peut-être un peu à cette news, il y aura pas de restrictions, il y a pas de resserrement monétaire avant le mois de novembre. C'est assez improbable, nous semble-t-il.
172 000 créations de postes, on est proche des 200 000 toujours hein, au mois de mai aux États-Unis, malgré le fait qu'on vient de niveaux quand même très hauts aussi, malgré la guerre en Iran, malgré un certain nombre de vents contraires. On disait l'IA va détruire des postes, peut-être qu'elle en détruit dans certains secteurs, mais globalement la dynamique de l'emploi reste hyper résiliente.
Elle reste résiliente et il y a quelque chose qui est un peu passé aussi, sous les écrans radars et qu'on regardait par ailleurs, et qui était une des thématiques de campagne de Donald Trump, c'était bien évidemment la politique migratoire, qui a fait beaucoup de mal finalement au marché du travail américain, puisque finalement, on est dans une situation, pas plus tard finalement qu'en début de cette année, où dans une situation un peu d'équilibre précaire sur le marché du travail, avec pas beaucoup d'embauches et pas beaucoup de licenciements finalement. Donc on avait un marché du travail qui était, on va dire, gelé un peu aux États-Unis, ce qui est assez inhabituel par ailleurs. Est-ce qu'il finalement faisait écho en quelque sorte à cette politique migratoire qui empêchait finalement ce flux finalement alimentant le marché du travail américain. Quand on regarde les statistiques les plus récentes, enfin les dernières données qu'on dispose, on voit bien que cette immigration en fait en réalité elle est repartie. La part de la population finalement étrangère dans la population américaine est en train de repartir.
Tiens.
Ça, effectivement, on commence à le constater.
Parce que l'ICE commence à un peu plus faire attention à ce qu'elle fait.
Parce que Trump, a tout faux sur l'ensemble de ses dossiers. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous regardez les tarifs douaniers, on est en train de revenir. Donc, en gros, même le 10% de tarifs douaniers, bah, en fait, on est déjà en dessous, à cause, effectivement, des effets de la Cour suprême, à cause, effectivement, de tout un tas d'effets par ailleurs. Quand on regarde également les tarifs douaniers qui étaient censés réindustrialiser, finalement, les États-Unis, bah, en fait, ça marche pas. Donc, le poids, effectivement, du secteur manufacturier continue, finalement, de se dégrader de manière légère, de manière graduelle. Et surtout, le point le plus important, c'est est-ce que ces tarifs douaniers ont restauré finalement la balance commerciale américaine ? Pas du tout. Ça a surtout en fait bénéficié à l'économie chinoise et surtout finalement à la balance commerciale chinoise qui n'a jamais été aussi excédentaire. Donc globalement, finalement, on revient sur l'économie américaine telle qu'elle était avant finalement Trump.
Oui, un regard là-dessus, Laurent. On voit la réaction des marchés cet après-midi quand même. Le Nasdaq recule de 2%. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu perdre 2%. Puis le S&P perd 1,1%. Antoine ?
D'ailleurs, Donald Trump sur Truth Social se peste en disant mais c'est pas possible, les marchés devraient grimper avec un rapport sur l'emploi aussi bon.
Il n'a pas compris comment ça fonctionnait.
Oui, j'ai l'impression que ça, bon, le temps que ça fasse crouille.
Laurent ?
Non, je suis d'accord. Les chiffres de l'emploi sont bons. Oui. L'économie américaine se tient bien. Nous, de manière générale, on est relativement prudent quand même, en général sur l'économie. Un, parce que ce qui nous ennuie un petit peu, c'est que dans la construction de la croissance américaine, quand on regarde nos travaux, on a l'impression qu'il y a une grosse partie qui vient quand même de l'IA. Et on a un sujet là-dessus sur à quel point l'IA peut encore accélérer. On pense plutôt que c'est le contraire qui va se passer. Et puis quand même, plus le détroit d'Hormuz reste bloqué, plus la probabilité que l'économie se ralentisse augmente. Et donc on salue ces bons chiffres. Mais c'est pas pour autant qu'on va changer forcément notre positionnement qui est un petit peu plus prudent qu'il ne l'était en début d'année concernant l'économie.
J'ai bien entendu ce que vous venez de dire. Nous pensons que l'IA va arrêter d'accélérer. Vous venez de dire ça. Vous l'avez dit vite, mais c'est ça.
Il faut utiliser les bons mots, mais oui. En fait, ce qu'on pense, en tout cas nos travaux, c'est que l'engouement de l'IA très fort depuis plusieurs mois, à notre avis, la cause principale, c'est les révisions massives d'estimations de CAPEX. De dépenses, d'investissement. Et un chiffre, pour avoir ça en tête, c'est que si vous prenez les 5 gros hyperscalers, donc Amazon, Microsoft, Meta, Oracle et Alphabet, et vous regardez ce que les gens attendaient début l'année dernière, ils se disaient en 2026, ces gens-là vont dépenser 320 milliards de dollars d'investissement en 2026. Finalement, ça va être 800 milliards. C'est quasiment x3. On s'est trompé de x3 dans l'estimation. Oui. Pareil pour 2027 et 2028. Et nous, notre point, c'est que ça, c'est derrière nous. On va plus pouvoir refaire la même surprise parce que quand vous regardez, l'équation financière se dégrade. Ces investissements engloutissent leur cash flow. Donc, il n'y a plus de génération de cash flow à partir de cette année quasiment. Donc, ils vont devoir soit emprunter plus, soit augmentation de capital. On l'a vu avec Alphabet lundi, Anthropique qui va se lister, etc. Donc, la croissance va devenir dilutive pour l'actionnaire. C'est un changement un peu de paradigme là-dessus.
Oui, et au point que du coup, il y aura peut-être plus de levée de capitaux à travers les actions que de rachats d'actions. Les rachats d'actions qui ont fait le bonheur des actionnaires ces dernières années, là, on risque d'en avoir un peu moins avec tous ces besoins d'investissement.
Alors, c'est complètement notre calcul. Nous, on calcule que sur les dernières années, grâce aux rachats d'actions, vous aviez en fait un nombre d'actions en circulation qui diminuait dans l'écosystème de l'IA, et il augmente à partir de cette année.
Ah oui, et on est dans une nouvelle phase amenée à durer de réaugmentation du nombre d'actions. Ça compte énormément. Et quand il y a plus d'offres, la valeur parfois baisse. Ouais.
Et si vous voulez pas augmenter les actions, vous pouvez, mais à ce moment-là, il va falloir faire de la dette. Et la dette, compte tenu des montants d'investissement, vous pouvez vite représenter 20-30% des émissions nouvelles sur le marché obligataire investment grade. Et ça devient très très important en termes de risque de concentration.
Donc je vous écoute, je me dis comme ça, la tech est à son top là en bourse. Elle ira pas beaucoup plus haut, voire elle pourrait redescendre beaucoup plus bas
ou... En tout cas, c'est les raisons pour lesquelles on n'investit pas nous sur l'IA dans nos
actuellement.
Portefeuilles.
Actuellement, ouais. Prenez pas cet ascenseur-là. Quoi. Vous en avez pris d'autres par le passé, mais celui-là... Non,
exactement, et surtout qu'on trouve à côté, et c'est ça qui fait qu'on n'est pas embêté de pas être sur l'IA, c'est que l'IA et l'engouement assèchent des secteurs entiers, des pans entiers de l'économie à côté. Et donc, il y a des industries en Europe, des secteurs où vous pouvez acheter des entreprises de qualité qui n'ont jamais été aussi peu chères en 10 ou 15 ans. Donc, on fait notre marché là-dedans et on est patient le temps que cette dynamique s'altère un peu.
Mabrouk, votre regard sur tout ça, on parlera plus spécifiquement SpaceX dans un instant, mais c'est un thème à lui tout seul, SpaceX. Mais sur la tech, les niveaux de la tech et le fait que, ça y est, on est au climax là et on pourra pas espérer beaucoup plus, qui ira plus loin en bourse relèvera peut-être de la bulle et de l'euphorie en l'occurrence. Est-ce que vous avez cette idée en tête vous aussi ?
C'est pas tout à fait notre analyse dans la mesure où on pense plutôt le contraire en fait, en réalité, dans la mesure où à chaque fois qu'on bat des records ou à chaque fois finalement qu'on commence à voir des valorisations remonter, la sempiternelle thématique finalement de la bulle revient. Bon, premièrement, nous on sait pas détecter une bulle, globalement ça on sait pas faire et malgré tous les outils quantitatifs qu'on utilise, on sait malheureusement toujours pas préciser à quel moment, finalement, dans une situation d'exagération.
Et puis, les bulles dans un portefeuille, mieux vaut les prendre que les rater.
Généralement, en plus, aux États-Unis, les bulles ont parfois ce côté un peu, on va dire, salvateur, c'est qu'elles vous permettent, en plus, d'en remettre un peu. Donc, pour essayer de regagner un peu ce momentum. Mais, ayant dit cela, fondamentalement, quand on regarde la valorisation du Nasdaq, alors, effectivement, donc, c'est une manière de regarder le secteur technologique, eh bien, fondamentalement, il y a pas véritablement d'exagération à ce stade. C'est un secteur qui produit par ailleurs du revenu, contrairement effectivement aux autres épisodes de valorisation élevée. Et puis ce procès qui consiste à dire à chaque fois trop de capex. Si on fait un peu un exercice de pensée en disant mais s'il n'y a pas de capex, qu'est-ce qui va se passer? Bon, en fait, il ne va jamais rien se passer, puis donc il n'y aura pas de revenus. Et là, effectivement, c'est la dégringolade. Donc, à un moment donné, quand on est dans une situation de monopole, on doit continuer d'investir. C'est un secteur qui est extrêmement intensif en capital. Et donc, à un moment donné, si on ne continue pas, si on ne maintient pas cet effort d'investissement, alors il y a sans doute peut-être un peu d'exagération. Le chiffre, effectivement, de 800 milliards, c'est quasiment, effectivement, par rapport à ce qui était déjà investi l'an dernier, on dit à peu près autour de 400 milliards, c'est quasiment du x2. Et tout le monde déjà anticipait que c'était déjà beaucoup l'an dernier, qu'on aurait beaucoup de mal à maintenir un tel niveau. Bon, effectivement, ça va encore plus vite.
Mais ce ne sera pas tout le temps comme ça. On n'aura pas toujours une dérivée seconde positive comme ça.
On ne peut pas avoir effectivement cette dérivée seconde en fait, qui continue d'augmenter.
Qui tire le marché vers le haut, voilà. Et quand on l'aura plus, qu'on va perdre l'essentiel en fait, de ce qui tire le marché vers le haut? Qu'est-ce qui se passera?
Quand on aura effectué les investissements, il y aura sans doute soit une diffusion vers l'économie, en fait, vers une économie beaucoup plus productive, beaucoup plus puissante. Et en fait, c'est le même problème à chaque fois. C'est the winner takes all. C'est-à-dire qu'en gros, celui qui aura réussi à passer ce virage de l'IA et à convertir finalement, on va dire, son économie à cette nouvelle technologie, eh bien, globalement, il va rafler la mise. Et en fait, quelles sont les économies qui sont extrêmement, en avance, en fait, sur ces thématiques-là? Il y en a deux, c'est la Chine et les États-Unis. Et le problème, c'est que globalement, ça attire finalement les regards et ainsi que les capitaux finalement sur ces deux économies, sur ces deux secteurs en particulier. Certes, de la concentration, il y en a, et on le voit à travers les valorisations, notamment les marchés en Asie émergente, enfin émergente entre guillemets, donc la Corée du Sud n'est pas vraiment un pays émergent, bien sûr, mais quand on regarde effectivement ce qui se passe à Taïwan, ce qui se passe en Corée, c'est le reflet tout simplement d'une demande, encore une fois, extrêmement solide et d'une capacité finalement à produire qui est limitée, expliquant effectivement l'augmentation des marges et donc des profits.
Oui, il y a une logique, mais à un moment, il faudra être hyper agile et sortir de ces acteurs-là. Par exemple, est-ce qu'on n'a pas déjà vécu ça avec les 7 magnifiques? Parce que franchement, depuis début 2025, 5 des 7 magnifiques font moins bien que le S&P. Plus rien de magnifique en termes de performance. Depuis le début 2025, 5 des 7 magnifiques font moins bien que le S&P, à part Nvidia et Alphabet. Donc on voit que ça s'est diffusé ailleurs, la hausse. Maintenant, la hausse, c'est les semi-conducteurs. Et on voit que ça commence à se diffuser encore au-delà, avec les microprocesseurs maintenant, avec les agents d'IA, on voit les microprocesseurs à leur tour prendre la hausse. On a même vu Valeo dans les équipementiers auto l'autre jour progresser. C'est ça que vous imaginez se poursuivre ricochet par ricochet et tenir le marché, même si les 7 magnifiques font plus rien et qu'ensuite les semi-conducteurs font plus rien. Il y aura toujours un autre secteur qui prendra le relais et qui sera assez gros en bourse pour porter la hausse encore sur les indices.
Alors je suis pas expert effectivement et je pense que ça va être mieux renseigné finalement que ma réponse. Mais globalement, ce que je dis, c'est que ces progrès techniques, enfin cette nouvelle technologie va se diffuser. Vous citiez effectivement certains secteurs, on pense au secteur industriel. Globalement, ça aussi, on peut en parler. Il y a beaucoup finalement dans le secteur industriel, beaucoup d'acteurs qui vont bénéficier effectivement de toute cette
Mais ils ne pèsent plus rien dans les indices, ces acteurs-là. Donc ça ne fera plus monter les indices.
Mais c'est cyclique, entre guillemets. S'ils ne pesaient plus rien effectivement aujourd'hui...
Les banques l'an dernier, elles ont cartonné en Europe. Est-ce que les indices en ont énormément profité?
Europe, bien sûr que oui. Non. Quand même. Si vous n'étiez pas sur les banques l'an dernier, c'était quand même compliqué.
Non, mais d'accord, mais ça faisait pas un indice CAC 40 rayonnant face au reste du monde, quoi. C'est pas parce que Société Générale a progressé qu'on a rayonné face à Wall Street. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le poids dans les indices, quoi.
Vous prenez un exemple particulier pour en faire une généralité.
Vous dites tous les secteurs en retard, certains secteurs en retard profiteront de l'IA et à leur tour gagneront 40-50%. Tant mieux pour eux. Il faut peut-être s'y positionner. Mais est-ce que les indices globaux en profiteront?
Je ne m'inscris pas sur un temps court, en fait. C'est ça, en fait, le point en particulier, c'est que si on veut voir ces effets de diffusion se manifester, ça va s'inscrire sur le temps long. Et le temps long, c'est le temps des marchés actions. Donc on ne peut pas effectivement demander aux marchés actions du jour au lendemain de délivrer des performances stellaires.
Laurent, qui a gagné là? C'est lui ou moi?
Non, je plaisante. Moi, je partage un peu l'avis de la prudence. Parce qu'il y a un autre sujet, on parlait un peu des investissements qui sont nécessaires, c'est vrai, mais nous, dans nos analyses, en fait, on calcule qu'entre maintenant et 2030, ils vont dépenser à peu près 6 trillions de dollars pour construire à peu près 100 gigawatts supplémentaires d'énergie. Et 6 trillions, quand vous réfléchissez à dire, bon, bah, je veux 10% de retour sur investissement sur ces 6 trillions, 10%, c'est correct, c'est 3 trillions de chiffre d'affaires nécessaires, de dollars. Et 3 trillions de dollars, pour vous donner une idée, c'est l'ensemble du budget IT mondial, logiciel et IT service. Okay. En 5 ans. Donc, vous voyez que c'est quand même des gros chiffres. Et peut-être qu'ils les délivreront, mais nous, on investit avec une marge de sécurité et on pense que la marge n'est pas forcément là aujourd'hui. Mm-hmm. Voilà un petit peu sur la partie investissement. Et il ne faut pas oublier une autre chose, et on le voit de plus en plus, c'est qu'il y a des goulets d'étranglement sur les commandes. Par exemple, un transformateur haute tension, oui. Vous avez besoin. Hein. C'était 2-3 ans, maintenant c'est 4-5 ans de commandes. C'est pareil pour le raccordement électrique. Au réseau, on est passé de 2-3 ans à 4-5 ans. Et donc maintenant, ils installent des centrales à gaz directement sur le data center. Mais même là-dessus, pour commander la turbine, on était avec un des fabricants de turbines la semaine dernière. Il nous dit, moi, mon carnet de commandes est rempli jusqu'à 2029. Et il n'y a plus de commandes pour l'instant.
Ça corrobore ce que je dis.
Donc, oui, mais ça veut dire que quelque chose va lâcher. Soit ils livrent ce qu'ils ont dit, mais du coup, la rentabilité sera probablement pas là. Soit ils font un warning en disant, bah, finalement, je peux pas déployer mes capex pour l'instant, ça va être un peu plus long que prévu.
Oui, mais si on s'inscrit sur un temps encore plus long, si on déploie des capex, effectivement, un peu plus, de manière sur une période de temps un peu plus longue, au fond, c'est pas grave. Au fond, c'est vraiment pas le sujet. Donc, et moi, mon point consiste à dire, si ça se diffuse par ailleurs sur d'autres acteurs et à l'ensemble de l'économie, eh bien là, finalement, on est en train de retrouver un truc qu'on avait perdu, notamment en Europe. C'est une capacité, un potentiel de croissance qui sera nettement plus élevé. Et auquel cas, on peut pas s'en plaindre. Donc, finalement, cette histoire que finalement la tech initie quelque part une espèce de mouvement finalement haussier sur de l'investissement dans d'autres secteurs qui se propagent, ben en fait, c'est ce qu'on attend globalement. C'est ce qu'a réalisé la puissance publique il y a plusieurs décennies cela.
Mmh. Après, vous pouvez passer par des moments des trous d'air. Hein. La fibre a été déployée à partir de 97-98, je pense, et ça n'a pas empêché le Nasdaq de faire moins 60% sur la première année. Alors que, vous avez raison, l'usage Internet, 5-10 ans plus tard, a été exceptionnel. Donc, il y a parfois un décalage entre ce que price la bourse dans le métier, c'est d'anticiper, et la réalité industrielle, c'est ça notre point en fait.
Absolument, et d'exagérer surtout certaines tendances.
Et la défense, c'est un bon exemple. Il y a 6 mois, personne ne pouvait vous entendre dire « Ah ben non, Rheinmetall, c'est trop cher, faut pas en acheter ». La thèse sur les budgets défense, elle est, tout le monde la connaît, tel pourcentage du PIB à atteindre, etc. Ça n'a pas empêché Rheinmetall, qui était la darling du marché, de perdre 40 ou 50%. Donc, le problème, c'est que souvent, les gens confondent croissance et rentabilité. La croissance n'est pas forcément rentable. C'est ça mon sujet. Et là, la croissance des capex ne sera pas forcément rentable. Absolument. Et donc, elle n'est pas forcément créatrice de valeur. C'est là où il faut faire la différence.
Ouais, mais juste un mot sur Anthropic qui appelle le secteur les acteurs de l'intelligence artificielle à ralentir, les laboratoires de recherche à ralentir aussi leurs recherches parce que dit Anthropic, on va arriver rapidement au moment où l'IA saura faire elle-même, apprendre d'elle-même, prendre elle-même des initiatives sans intervention humaine. Et là, dit Anthropic, qui est un acteur de tout cela quand même, qui prétend à une introduction en bourse, et là on aura un problème sociétal. Quand on entend ça de la part d'un acteur qui veut s'introduire en bourse, on se dit quoi ? Faudra y aller sur Anthropic ou non, parce que même doute de... Ils sont bien, hein, ils sont forts hein, sur l'IA, mais il y a comme un léger malaise chez eux malgré tout, face à tout ça. Ils ont participé à l'élaboration aussi de l'encyclique hein, du nouveau pape. On voit qu'ils sont engagés pour réarmer l'humain face à l'IA quand même. C'est Anthropic qui, quelque part, alerte sur son propre business, quoi, tout en voulant le développer. C'est compliqué, là, cette position d'Anthropic. Comment vous regardez ça, Laurent ?
C'est assez schizophrène, en fait. Hein. Ils ne peuvent pas faire très différemment. Je pense qu'ils ont quand même un sujet, ça va être d'acceptance et d'acceptation de l'IA de manière générale. Parce que si on vous dit toute la journée que l'IA va détruire tous les emplois, c'est sûr que ça ne va pas être facile pour le commun des mortels de se dire je vais contribuer au développement de l'IA dans mon entreprise, etc. Donc ils sont obligés d'être un petit peu schizophrènes. Et après, nous, ce qu'on pense, c'est qu'on déploie l'IA en interne. Hein. Mais pour l'instant, ça ne nous a pas fait changer nos effectifs ou autres. Et on voit bien que le déploiement en interne est finalement pas si rapide que ça, parce que la fiabilité de l'IA, pour l'instant, n'est pas encore à 99,9%. Donc, vous ne pouvez pas changer vos process si vous avez 88-90% de taux de fiabilité, qui est le cas actuellement. Donc, à mon avis, on sera surpris négativement par la vitesse du déploiement de l'IA.
Ben voilà, deux rapports à l'IA, deux visions des choses, deux façons d'investir et de regarder l'avenir des marchés. On continue d'en parler ensemble. Dans 10 minutes, la clôture, on accélère là dans la dernière ligne droite de cette séance. Le CAC 40 perd 0,27%, 8221 points, avec les valeurs qui ont plus progressé dans l'IA ou liées à l'IA ces derniers jours, qui respirent un petit peu, qui repartent à la baisse. ST Microelectronics perd 5,5%, par exemple. Schneider Electric perd 4%. À Wall Street, le Nasdaq vit une vraie séance de baisse. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu perdre plus de 2%. Là, il perd 2,2%, avec pour déclencheur aujourd'hui le rapport sur l'emploi aux États-Unis qui est meilleur qu'attendu, ce qui ne va pas plaider pour des baisses de taux. Voilà, donc petite pression sur le marché obligataire qui fait baisser les valeurs de croissance et le Nasdaq au premier chef, donc moins 2,2%. On en parle ce soir avec Laurent Chauderge et Mabrouk Chetouane. Qui serait prêt à investir dans SpaceX du coup dans une semaine ? Dans une semaine, on suivra la cotation en direct dans BFM Bourse de SpaceX, journée spéciale vendredi prochain sur BFM. Mon petit doigt me dit d'ores et déjà qui sera prêt à investir et qui un peu moins. Vous serez prêt à investir un peu ou pas là, Mabrouk ?
Allez-y.
Non.
C'est pas moi l'expert.
Manifestement, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à investir.
Mais est-ce qu'on sera servi, en fait? C'est ça, le problème.
Est-ce qu'on sera servi déjà? Effectivement, nous, on n'est pas dans ce camp-là. Il y a trois, au-delà de l'investissement dans SpaceX, je trouve qu'il y a trois signaux très intéressants. Le premier, c'est la taille de l'opération, hein. Bon, la capitalisation boursière, 1800 milliards, 70, 75 milliards d'introduction, hein. Il faut bien avoir en tête que 70, 75 milliards, c'est quasiment deux fois la taille du marché annuel des introductions en bourse aux États-Unis sur les cinq dernières années. Donc c'est pas, et ça on n'a pas encore fait Anthropic.
Combien de fois vous avez dit ?
Deux fois. Peu près. On n'a pas encore fait Anthropic qui a été malin et qui a fait son annonce avant OpenAI. Donc ça c'est le premier sujet. Le deuxième c'est, et on y reviendra peut-être en fin de séance, donc je vais pas spoiler la suite, c'est la valorisation. Et on y reviendra. Et le troisième sujet, mais qui est un sujet beaucoup plus sociétal, c'est ce qui est en train de se passer. C'est qu'il y a très peu de façons de justifier cette valorisation. Donc, ce qu'il vous faut, c'est trouver des acheteurs qui sont insensibles au prix. Il y a deux types d'acheteurs qui sont insensibles au prix. Il y a le particulier, puisqu'il achète sur de l'histoire et sur du rêve, et lui-même ne va pas faire une valorisation d'entreprise. Et le deuxième acheteur insensible, c'est la gestion passive. Parce que, par définition, elle achète ce qui rentre dans l'indice indépendamment du prix. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont changé les règles de telle façon à ce que SpaceX puisse rentrer dans le Nasdaq 100 au bout de 15 jours, au lieu d'au bout de 6 mois. Donc, il y a une vraie distorsion des règles historiques. Et ça n'aurait pas pu être le cas en 2000, parce qu'à l'époque, la gestion passive n'existait quasiment pas.
Les ETF font disparaître les enjeux de valorisation.
Exactement.
En tout cas, les valorisations sont explosées par les ETF, effectivement.
Donc, le mécanisme même du marché boursier dans sa genèse, qui est la découverte du juste prix, c'est un bon exemple qui est en train de devenir un peu dysfonctionnel avec la gestion passive, qui quand elle repentait 15%, c'était pas grave. Là maintenant, c'est plus de la moitié des encours en gestion collective aux États-Unis.
Oui, mais alors le Nasdaq a choisi de l'intégrer à son indice en faisant exploser ses règles habituelles parce qu'ils veulent absolument avoir SpaceX. Au bout de 15 jours, SpaceX sera au Nasdaq. En revanche, le S&P a fait le choix inverse. Ils ont annoncé que SpaceX, non, ne dérogera pas aux règles habituelles. Il faut 4 trimestres consécutifs de rentabilité, ce qui n'est pas le cas de SpaceX, pour prétendre au S&P 500. Et donc, non, pas de SpaceX au S&P 500. À l'IPO et pas avant 12 mois, annoncé le S&P. Donc là, on a deux façons de communiquer, mais aussi deux choix stratégiques indiciels très différents. Le Nasdaq d'un côté et qui change ses règles pour SpaceX et puis le S&P qui, au contraire, joue les commandeurs, quoi, quelque part, Mabrouk.
Oh ben c'est un peu c'est l'ancrage, un peu, le S&P. Hein, donc, on va dire que le Nasdaq, c'est le Far West et puis le S&P, bon, là, on parle quand même de choses assez solidement ancrées. Non, effectivement, la question de la valorisation fait débat. Donc, et le marché a toujours tendance, entre guillemets, encore une fois, à exagérer, on va dire, certaines valorisations. On a aujourd'hui finalement une demande qui est très nettement supérieure finalement à l'offre. Je parlais effectivement de est-ce qu'on sera déjà servi, et cette sursouscription quelque part, et ça fait penser au commentaire que vous faisiez, donc à un bien de Giffen, c'est un bien de luxe en fait aujourd'hui quasiment, puisque aller chercher des actions indépendamment finalement d'une trajectoire quelconque de bénéfices, indépendamment même de la valorisation, et en faisant abstraction de tout ça, est-ce que c'est bien raisonnable. Les autres, effectivement, grandes entreprises du secteur technologique, on les connaît. Effectivement, elles sont pas nouvelles. On les sont installées depuis assez longtemps. Et elles ont quelque part fait leurs preuves. Là, effectivement, bon, c'est sur la personne d'Elon Musk. Hein.
Vous trouvez que Tesla a fait ses preuves? Enfin, oui, ils ont fait leurs preuves, bien sûr. Mais enfin, la valorisation, quand même, est stratosphérique.
Non, mais d'accord. Mais ça, bien sûr. Mais oui. C'est pas une entreprise, entre guillemets, qui est, on va dire, inconnue au bataillon. Là, on parle d'une entreprise qui a encore des projets dont on peut encore questionner la faisabilité.
SpaceX, attendez. Goldman Sachs, alors ils sont jugés partis là-dedans parce qu'ils accompagnent l'introduction en bourse, mais Goldman Sachs estime que les revenus de SpaceX liés à l'IA, parce que c'est aussi lié à SpaceX, ses revenus passeront de 3,2 milliards de dollars en 2025 à 322 d'ici 2030. Multiplication par 100.
Ouais, mais on
n'a
jamais
en 3
réussi
ans.
À refaire les calculs de Goldman Sachs. Même un simple calcul de corrélation, c'est compliqué avec eux. Donc, à un moment donné, on questionne la méthode et comme vous dites, effectivement, ils sont jugés partis. On peut effectivement discuter jusqu'à demain, finalement, du bien fondé de ce calcul. Faut être à un moment donné raisonnable.
Goldman Sachs qui a installé une fusée dans son hall d'accueil, justement, pour faire la promotion de l'introduction en bourse de SpaceX, qu'ils accompagnent. Donc, leur hall d'accueil au siège social de Goldman Sachs, il y a une grande fusée SpaceX. Morgan Stanley à New York, à son siège social de New York, a mis ses ascenseurs et ses tourniquets Morgan Stanley aux couleurs de SpaceX aussi. C'est pas fini, hein, y en a d'autres. Bank of America a transformé son immeuble à New York en grande rampe de lancement de fusée. La nuit, en fait, il y a de grands projecteurs et des effets visuels qui font confondre le siège de Bank of America avec une rampe de lancement de fusée. Il faut faire la promotion d'une introduction en bourse de cette taille. Hein. Quand on est une banque qui accompagne ça, il faut.
Vous avez 70 milliards à placer, ouais. Donc c'est sûr.
Et Antoine, vous nous disiez tout à l'heure sur ces banques, en plus, Elon Musk leur a demandé un petit rabais, donc du coup, c'est peut-être une forme de monnaie d'échange.
Il n'a pas demandé de rabais, il s'est engagé à ce qu'il arrive à des frais de mise en bourse les plus bas possibles.
C'est ça.
Sans doute avec l'effet de masse, hein, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, ouais, il y a une forme de confrontation avec Elon Musk là-dessus. Après, on peut mettre des fusées dans son hall d'entrée, ça coûte rien, et puis ça fait venir du client potentiel, mais ça risque d'être un combat assez musclé.
Est-ce qu'il ne faudrait pas créer un ETF sur la fortune d'Elon Musk aussi après l'IPO? Ah, mais la fortune nette d'Elon Musk après l'IPO représentera 3% du PIB américain, l'équivalent du PIB de 125 pays. À lui tout seul. 3% du PIB américain, ça correspond à la situation de Rockefeller en 1913. Mais là, c'est une personne, c'est Elon Musk. Bon. Et pourquoi pas? On est dans l'époque du « pourquoi pas ».
Écoutez, hein, les records sont faits pour être battus.
Oui.
Bon, alors oui, on peut encore discuter de la concentration des richesses, qui effectivement peut être problématique. Hein, donc, la problématique de la répartition de la richesse, c'est toujours le grand débat en économie. Est-ce qu'une personne qui concentre, on va dire l'équivalent, quasiment l'équivalent du PIB de la Pologne, ça fait sens? Bon, bah peut-être pas. Donc, bon, mais est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Bon, peut-être pas non plus. Donc, est-ce que la question mérite d'être posée, je ne sais pas.
Mais qui devra le plus se justifier dans une semaine? Le gérant qui choisit, l'investisseur qui choisit de ne pas acheter SpaceX, ou au contraire celui qui choisit d'avoir SpaceX en portefeuille? Lequel sera le plus mal à l'aise et devra justifier son choix?
L'avenir nous le dira.
Oui, bah, d'accord. Bon.
Je pense que quand vous gérez de l'argent pour les autres, à la fin, ils vous le confient parce que vous avez une certaine méthode et une discipline d'investissement. Donc le plus important, c'est de rester... Enfin, c'est mon sens, hein, on fait ça depuis 20 ans. Et ce qui nous a le mieux servi, c'est de rester fidèle à ce qu'on a dit à nos clients et à notre discipline. Et dans nos critères de discipline, SpaceX ne rentre pas.
L'Europe, vous renforcez l'Europe? Vous faites quoi avec l'Europe là? Parce qu'on parle beaucoup des États-Unis, mais on est là, nous aussi.
Ah non, on est essentiellement sur l'Europe. Hein, mais ce que je pouvais dire, c'est qu'au sein de l'Europe, ce que je vous disais tout à l'heure, on voit des opportunités qu'on n'a pas vues depuis 10 ou 20 ans. Dans certains segments, dans des sociétés très rentables, mais qui sont un peu délaissées pour l'instant avec cette polarisation IA. Donc notamment, on a beaucoup augmenté la santé depuis 18 mois. On a aussi augmenté un petit peu la consommation courante. Donc dans la santé, c'est surtout des équipements médicaux, hein, des Philips, des Siemens Healthineers, de la dialyse avec Fresenius Medical Care. Dans la consommation courante, on a pris des participations dans certains brasseurs, dans des spiritueux, dans le parfum. Par exemple, et là, on a des valorisations, je vous dis, on n'a pas vu ça depuis 2010.
Oui, et ces valorisations sont amenées à évoluer pour vous. Il va y avoir des déclencheurs positifs.
Oui, parce qu'à un moment, il y aura ce qu'on dit une rotation, et oui. Le marché se réintéressera à ces valeurs. Et un bon exemple, parce que souvent les clients disent, ou les investisseurs disent, mais quel va être le catalyseur? Et je vous invite à regarder, par exemple, le secteur du tabac sur les 10 dernières années. En fait, vous avez une première partie qui est, vous vous souvenez, la partie où il y a de l'ESG qui monte en puissance. Donc, ce secteur ne fait que baisser. Il perd 50 ou 60%. Et la valorisation de ce secteur devient très faible. Il atteint 7, 8 fois les bénéfices. Et puis, finalement, il y a quand même du dividende, il y a du rachat d'actions. Et puis, finalement, il y a un petit peu de croissance. Et vous regardez, les titres commencent à rebondir. Et le marché, le secteur du tabac, a une des meilleures performances sur les 4 dernières années de plein de secteurs. Et en fait, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un moment...
Malgré l'ESG, en plus.
Oui. Quand vous achetez des entreprises avec des bonnes positions concurrentielles, il y a un moment, si la valorisation devient trop faible, il se passera des choses. Soit le management se fera débarquer, il y aura une nouvelle stratégie, soit ils feront un dividende spécial, soit ils se feront racheter. Oui. Sur les 12 derniers mois, on a eu 4 sociétés dans le portefeuille qui se sont fait racheter.
Ah oui. Et on voit effectivement le retour des mal-aimés aussi à travers Dassault Systèmes, par exemple.
Voilà, il y a une vraie histoire aussi industrielle quand même, donc,
oui.
Sur Dassault. Donc, mais bon.
Non, c'est intéressant. C'est juste un autre segment, le troisième segment sur lequel on a investi depuis 12 mois, depuis 6 mois. C'est notamment certaines sociétés, pas d'associés, mais d'autres, exposées au secteur des logiciels qui avaient beaucoup baissé.